Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du lundi 31 octobre 2022. Avec vous, Eric Maniakidza. Voici d'abord le sommaire. Plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté lundi à Goma contre le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23. En Centrafrique, trois membres d'un groupe armé condamnés pour crimes contre l'humanité dans un premier verdict de la Cour pénale spéciale.
Nous sommes totalement satisfaits de la décision qui a été rendue ce jour 31 octobre 2022 par la Cour pénale spéciale.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. La Somalie demande l'aide de la communauté internationale après le double attentat à Mogadiscio qui a fait 100 morts samedi. La victoire de Lula à la présidence du Brésil est saluée à travers le monde. En Ukraine, attaque massive russe contre des installations énergétiques dans plusieurs régions du pays. 80% des habitants de Kiev sont privés d'eau. À suivre dans l'économie, dans l'actualité économique, le président ghanéen qui veut rassurer son pays sur la crise économique. Également dans cette édition, les sports de Yacouba Ouédraogo, on connaît désormais tous les qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. D'abord, le journal. En RDC, plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté ce lundi à Goma contre le Rwanda, accusés par les autorités de soutenir les rebelles du M23. Ces derniers ont gagné du terrain ces temps-ci dans l'est du pays. Yacouba Ouédraogo.
Les manifestants, dont des centaines de motards, certains armés du bâton et de pierre, ont envahi les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils se sont ensuite dirigés vers la Grande Barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogène. Certains dénoncent ce qu'ils qualifient d'hypocrisie de la communauté internationale.
On continue de regretter le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de manifester. Mais aussi on continue de dire qu'on est en train de soutenir les FRDC. Parce que nous pensons que n'importe quelle armée au monde ne peut faire la guerre si le peuple n'est pas derrière lui.
La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. Kinshasa a décidé samedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda à RDC après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. En juillet, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunangana à la frontière ougandaise. Le Rwanda dit avoir noté avec regret la décision de Kinshasa. Sur Twitter, le président Paul Kagame a indiqué avoir eu une bonne discussion avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre le problème de manière pacifique.
Plus de 2000 personnes ont été détenues pendant et après les manifestations violemment réprimées au Tchad qui ont fait plusieurs dizaines de morts à travers le pays le 20 octobre, selon l'Organisation mondiale contre la torture. Des représentants des autorités judiciaires doivent se rendre cette semaine à la prison de haute sécurité de Cototoro en plein désert pour leur notifier les charges. L'ONG demande la libération de toutes les personnes détenues ou au moins qu'elles bénéficient de procès équitables et l'organisation souhaite que la sécurité des avocats soit garantie pendant la traversée du désert. En Centrafrique, trois membres d'un groupe armé ont été condamnés ce lundi à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale spéciale. C'est le premier verdict de ce tribunal hybride composé de magistrats locaux et internationaux. Les détails avec Nanit Talani.
Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, membres du groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, ont été reconnus coupables de meurtre, actes inhumains et de traitements humiliants et dégradants. Ils ont notamment été accusés du massacre le 21 mai 2019 de 46 civils dans le nord-ouest de la RCA. Issa Saleh Adoum a été condamné à la perpétuité ainsi que de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en sa qualité de chef militaire pour des viols commis par ses subordonnés constitutifs. Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Mahamat Tahir, qui clame son innocence, s'est présenté affaibli à l'audience sur un brancard après avoir entamé une grève de la faim depuis 21 jours. Les accusés ont été par contre acquittés des chefs de torture en tant que crime de guerre. Le parquet avait requis mi-août la perpétuité pour les trois accusés. Ils ont 3 jours pour interjeter appel, précise la Cour pénale spéciale. Celle-ci a été créée en 2015 par le gouvernement sous le parrainage de l'ONU pour juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003.
La prison à vie a été requise lundi à Paris contre l'ex-commandant rebelle Conti Camara du Mouvement Uni de Libération, ou LIMO, dans le premier procès consacré en France aux crimes commis pendant la guerre civile au Libéria au début des années 90. Ils ont détruit des vies et leur gravité a porté atteinte à l'humanité tout entière, a justifié l'avocate générale. L'accusé de 47 ans, jugé notamment pour complicité de crimes contre l'humanité, contestait les faits. Le verdict est attendu mercredi. L'armée nigériane a repoussé une attaque contre une base militaire dans l'ouest du pays où sont détenus près de 1700 djihadistes, tuant huit insurgés présumés affiliés au groupe État islamique. Toujours au Nigeria, le président Muhammadu Buhari et les chefs des forces de sécurité ont réfuté toute menace accrue dans la capitale de quelques jours après l'alerte de l'ambassade des États-Unis contre des attaques potentielles à Abuja. Le président somalien lance un appel à la communauté internationale pour venir en aide aux blessés du double attentat, la voiture piégée qui a fait 100 morts et plus de 300 blessés samedi à Mogadiscio. Le point avec Abdelrahman Dia.
Le chef de l'État somalien, Hassan Cheikh Mohamud, demande à la communauté internationale et aux Somaliens d'envoyer des médecins pour aider les hôpitaux à soigner les blessés, soulignant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Nous ne pouvons pas transporter par avion tout ce nombre de blessés. Nous demandons à quiconque pouvant nous envoyer de l'aide de le faire, a poursuivi le chef de l'État après avoir lui-même donné son sang. Pour le président Hassan Cheikh Mohamud, ce double attentat montre que les islamistes Shabab ont perdu contre l'armée, ce qui explique le massacre de civils innocents. Les islamistes radicaux Shabab ont revendiqué l'attentat le plus meurtrier depuis 5 ans. 2 véhicules piégés ont explosé sur une artère très fréquentée à quelques minutes d'intervalle. Les explosions qui ont soufflé les fenêtres et des bâtiments voisins ont submergé les hôpitaux et cliniques dans ce pays au système sanitaire ravagé par des décennies de conflits. La communauté internationale a rapidement condamné le double attentat. La mission de l'ONU en Somalie s'est engagée à se tenir résolument aux côtés de tous les Somaliens contre le terrorisme et Washington a dénoncé une attaque haineuse et assuré les autorités somaliennes de leur soutien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du monde ont unanimement salué la victoire dimanche de Luis Inácio Lula da Silva au second tour de l'élection présidentielle qu'il opposait au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Le point avec Mohamedou Oumfa.
J'adresse mes félicitations à Luis Inácio Lula da Silva pour son élection à la présidence du Brésil à la suite d'élections libres, justes et crédibles, a déclaré Joe Biden, président des États-Unis, dans un communiqué. Le chef de l'exécutif américain a dit avoir hâte de travailler avec le président élu brésilien pour poursuivre la coopération entre le Brésil et les États-Unis. Félicitations Lula pour votre élection à la présidence du Brésil, a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se disant impatiente de travailler avec Lula, en particulier sur les défis urgents du climat, du libre-échange et de la sécurité alimentaire. Les dirigeants de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Espagne et d'Australie ont également félicité M. Da Silva. Les résultats de l'élection ont confirmé votre grande autorité politique, a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans un télégramme adressé au président élu. J'espère qu'en fournissant des efforts conjoints, nous ferons en sorte de poursuivre le développement d'une coopération russo-brésilienne constructive dans tous les domaines, a-t-il ajouté. J'attache une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Brésil et je suis prêt à travailler avec le président élu Lula, a déclaré pour sa part le président chinois Xi Jinping, selon des propos rapportés par la télévision d'État CCTV.
La Russie a lancé lundi matin une attaque massive contre des installations énergétiques dans plusieurs régions d'Ukraine, privant d'eau 80% des habitants de la capitale de Kiev et laissant des centaines de localités sans électricité.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Très critiqué pour sa gestion économique, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé dimanche soir lors d'un discours télévisé que son gouvernement pouvait répondre aux difficultés, notamment grâce à un possible accord de prêt avec le FMI. Alors qu'il avait promis un Ghana sans aide, le président Akufo-Addo est revenu sur sa décision de ne pas solliciter l'aide du FMI, indiquant qu'un accord pourrait désormais être trouvé avant la fin de l'année. Le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Al-Jasser, a visité le 28 octobre le projet de développement de la baie de Cocody en cours d'exécution lors de son séjour en Côte d'Ivoire. La banque contribue à hauteur de 260 millions d'euros à ce projet qui vise à apporter des solutions durables à la baie et aux problèmes de pollution de son bassin versant. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole envisage une augmentation de la demande mondiale de pétrole jusqu'en 2035, tirée par les pays en développement, principalement pour alimenter les transports et la pétrochimie, selon son rapport annuel rendu public lundi. Cette demande devrait passer de 96 millions de barils par jour en 2021 à 109 millions de barils par jour d'ici 2035, estime le rapport.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On connaît tous les qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, le tenant du titre, l'Égypte, y sera après son court succès 1-0 devant l'Eswatini. Au prochain tour, les Pharaons espoirs feront face à la Zambie qui a sorti la Sierra Leone. Qualification également du Nigeria devant la Tanzanie et du Sénégal au tir au but face au Burkina Faso. Les Lions Espoirs croiseront ensuite le Mali vainqueur 1-0 du Rwanda. Un résultat insuffisant selon le sélectionneur des Aigles Espoirs, Alou Badra Diallo.
On a travaillé toute la semaine devant le but. Je pense qu'on a été défaillant dans certains comportements. Derrière, jusqu'en attaque, ça n'a pas été vraiment un match que moi je voulais qu'on offre au public. Ça n'a pas été comme ça. Donc, je retiens seulement la qualification pour ce match-là. La suite, il faut bien se préparer.
Alou Badra Diallo, le sélectionneur des moins de 23 ans du Mali, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Ça passe aussi pour la RDC malgré sa défaite 3-1 en Algérie. Les Léopards l'avaient emporté 4-1 à l'aller et vont affronter le Ghana qui a éliminé le Mozambique. Ça passe aussi pour le Cameroun qui a écarté l'Angola à Yaoundé 0-0 au retour après un succès 3-2 à l'aller.
Un troisième et avant-dernier tour que ne verra pas la Côte d'Ivoire, Yacouba.
Les espoirs ivoiriens qui avaient atteint les quarts de finale à Tokyo ont été éliminés par le Niger, qui a bénéficié du but marqué à l'extérieur 1-1 à Abidjan. Après le nul 0-0 à Niamey, les Nigériens joueront le Soudan battu 3-1 par le Bénin, un succès qui ne compense pas la défaite 2-0 du match aller pour les Béninois. C'est aussi fini pour la Tunisie, sortie par le Congo, et le Togo qui tombe devant l'Afrique du Sud, qui défiera le Gabon pour décrocher l'un des 7 tickets pour cette CAN. Ce sera en mars prochain au Maroc.
Enfin, avant de nous quitter ici en NBA, les Lakers réagissent.
LeBron James, 28,8 passes décisives et ses coéquipiers ont décroché leur première victoire de la saison aux dépens de Denver 121-110 avec 5 défaites consécutives. Les Lakers ont égalé la pire entame de championnat de l'histoire de leur franchise depuis qu'elle s'est installée à Los Angeles en 1960. De son côté, Golden State a concédé un deuxième revers d'affilée chez les Pistons 128-114. Cleveland a confirmé son excellent début de saison contre les Knicks 121-108. À Dallas, Luka Doncic s'est fendu de 44 points, bien nécessaire aux Mavericks pour se défaire du Magic 114-105. À Boston, les Celtics ont battu Washington 112-94. San Antonio a vaincu Minnesota 107-98. À noter aussi la victoire des Pelicans chez les Clippers 112-91.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, place au dossier du jour. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale a condamné ce lundi 3 membres du groupe armé 3R, retour, réclamation et réhabilitation, à de lourdes peines pour crimes contre l'humanité. Issa Saleh Adom a écopé de la perpétuité, tandis que Tahir Mahamat et Ousmane Yaouba ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ce premier verdict de la Cour pénale spéciale était très attendu par les victimes et la société civile qui militent depuis des années contre l'impunité des crimes de guerre commis en Centrafrique. La Ligue centrafricaine des droits de l'homme se dit satisfaite de cette décision historique. Nanit Talani s'est entretenue avec le président de cette organisation, Joseph Bindoumi, depuis Bangui, la capitale centrafricaine.
Pour nous, de la société civile, particulièrement la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, nous sommes totalement satisfaits de la décision qui a été rendue ce jour 31 octobre 2022 par la Cour pénale spéciale. Cette décision trouve sa source à l'occasion des crimes graves qui ont été commis dans la préfecture de Luampendé et qui avait entraîné plusieurs morts, dont les auteurs étaient les militaires du groupe armé 3R. À l'époque, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, qui était dans un projet conjoint avec la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, avec l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et elle-même Ligue centrafricaine des droits de l'homme, s'était transportée à Koundjili, à Luampendé, pour aller faire une enquête du terrain, relever toutes les informations et transmettre l'ensemble du dossier constitué à la Cour pénale spéciale. Les actes que nous avons constatés ont été présentés devant la Cour pénale spéciale et nous sommes aujourd'hui très heureux que la Cour pénale spéciale ait pris une décision sévère. Parce que, comme vous l'avez suivi, l'un des accusés a été condamné à perpétuité et les deux autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 20 ans. C'est un motif de satisfaction.
Et comment réagit la population centrafricaine?
Oui, la décision a été rendue tout à l'heure autour de 11h midi. Maintenant, il faut que cette décision soit diffusée à nouveau pour qu'il y ait beaucoup de gens qui suivent cette décision. Je vous dis malheureusement que la radio nationale qui a rendu publique la transmission de cette audience n'est pas écoutée dans la zone du crime. Je crois que les autres radios communautaires vont relayer l'information dans la journée et puis au plus tard demain matin, nous aurons la réaction des personnes qui ont vécu les faits, la réaction de la population et désormais la confiance que la population peut apporter à la Cour pénale spéciale.
Effectivement, à propos de cette Cour, est-ce qu'elle a vraiment les moyens de sa politique?
Nous avons regretté à un moment donné que cette Cour ait des possibilités trop lentes. Pour avancer les procédures, nous avons beaucoup regretté, nous en avons parlé à haute voix, parce que nous avons dit si après 4 ans, on a réussi à juger une affaire avec 3 accusés, alors que nous sommes sur un terrain où les crimes sont massifs et systématiques, nous avons beaucoup regretté. Mais aujourd'hui, si la Cour pénale spéciale rend cette décision, ça nous donne l'espoir que les autres dossiers qui sont en instance seront certainement jugés. Et puis, avant la fin de leur mandat, je crois qu'ils auront fait une partie du travail qui leur était demandé.
Donc, on peut dire qu'on peut s'attendre à d'autres condamnations?
Oui, parce qu'il y a d'autres dossiers en cours d'instruction. Je ne suis pas autorisé à les faire révoquer à la presse, mais il y a des dossiers en cours d'exploitation qui certainement feront l'objet bientôt d'une autre audience de la Cour pénale spéciale.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'offensive et la poussée du M23 vers la ville de Goma. Le conflit qui oppose le groupe rebelle et l'armée congolaise dans l'est de la RDC s'est enlisé davantage ce week-end avec la prise de 2 autres villes. Cette situation a poussé Kinshasa à expulser l'ambassadeur du Rwanda que la RDC accuse de soutenir la rébellion du M23, ce que dément Kigali. Comment analyser l'offensive du M23 qui a repris les armes fin 2021? La diplomatie peut-elle faire taire les armes dans ce conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Les élections cruciales de mi-mandat de 2022 aux États-Unis auront lieu dans un peu plus d'une semaine, le 8 novembre. Elles détermineront si les démocrates maintiendront leur majorité ou si les républicains prendront le contrôle de la Chambre et du Sénat. Plusieurs sujets, y compris l'avenir du droit à l'avortement, préoccupent de nombreux électeurs. Les explications d'Arash Arabassadi, avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Le vote anticipé est en cours dans la majorité des États avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. La semaine dernière, le président Joe Biden et sa petite-fille Nathalie ont voté dans le Delaware, l'État où le président s'est inscrit comme électeur. Dans la plupart des États, les candidats sortants bénéficient d'une longueur d'avance, ne laissant qu'une poignée de véritables États pivots qui détermineront l'équilibre des pouvoirs à Washington. La Géorgie fait partie de ces États clés. Le sénateur démocrate sortant, le révérend Raphaël Warnock, est dans une course serrée avec l'ancienne star du football américain Herschel Walker. Comme dans de nombreuses courses cette année, l'accès à l'avortement occupe une place importante. Herschel Walker, lors d'un débat télévisé.
Sur l'avortement, vous savez, je suis chrétien, je crois en la vie. Et j'ai dit aux gens ceci. La Géorgie est un État qui respecte la vie, et je serai un sénateur qui protège la vie.
Deux femmes ont accusé Walker de payer pour qu'elle se fasse avorter. Pendant ce temps, Warnock dit que le gouvernement n'a pas besoin d'interférer dans ce processus de prise de décision. Raphaël Warnock s'exprime ici lors d'un débat face à Walker.
La chambre d'un patient est trop étroite, petite et exiguë pour une femme, son médecin et le gouvernement des États-Unis. Nous assistons en ce moment à ce qui se passe lorsque des politiciens, pour la plupart des hommes, s'entassent dans les chambres des patients.
Les démocrates craignent de perdre la Géorgie et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, lors d'une conversation avec le président Biden, reconnaissait le risque pour les démocrates dans cet État, alors que les micros étaient encore ouverts. Les républicains, eux, ne cachent pas leurs ambitions. Le sénateur Rick Scott est le président du comité sénatorial du Parti républicain.
Je pense que le réveil sera brutal pour les démocrates le 8 novembre, en sachant que l'inflation élevée, la criminalité élevée et l'ouverture des frontières sont pas ce que le public américain veut. J'espère que les républicains adopteront de bonnes lois et que Joe Biden les signera.
Les démocrates prédisent de leur côté que le droit à l'avortement, auquel le Parti républicain s'oppose, conduira les électeurs aux urnes et les aidera à se maintenir au pouvoir. La démocrate Sherry Beasley de Caroline du Nord est candidate au Sénat.
L'avortement est un gros problème et nos libertés fondamentales, je veux dire, nous parlons de qui prend la décision. Est-ce une femme et son médecin ou est-ce des politiciens à Washington?
Historiquement, le parti d'un président en exercice perd souvent des dizaines de sièges à la Chambre et une poignée au Sénat lors des élections de mi-mandat, suffisant pour modifier l'équilibre des pouvoirs à Washington si cela se confirme le 8 novembre.
Le Centre américain-africain des affaires annonce dans cette édition les trois finalistes du concours de l'innovation numérique en Afrique. Je suis dans ce studio avec Guevara Yao de ce centre qui contribue à la promotion de l'excellence africaine. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Merci de me recevoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, qui sont les trois lauréats et sur quoi portent leurs innovations qui sont récompensées?
Alors, il faut reconnaître que on vient de très loin. Nous avons au départ près de 1700 applicants et nous sommes donc à cette étape où nous en après dans l'étape des 10 premiers, nous sommes donc à cette étape des trois meilleurs. Et les trois meilleurs viennent donc de trois pays, Nigeria, Kenya et le Ghana. nous avons Health Boutiques, qui est une start-up de services intégrés de livraison médicale reliant les établissements de santé aux fournisseurs et fabricants de fournitures médicales. Et il faut aussi rappeler que ce start-up était le champion régional de l'Afrique de l'Ouest. Et après, nous avons Grow Africa du Kenya, qui est une start-up de technologie agricole dont la plateforme permet aux petites et moyennes entreprises exploitant en fait agricoles de mieux cultiver, de gagner plus d'argent. Et ce start-up était aussi, il faut le rappeler, lauréat donc de l'Afrique de l'Est. C'était les champions de l'Afrique de l'Est. Le dernier start-up, c'est Chopa du Ghana, qui est une plateforme digitale B2B, B2B, donc business to business, et une application de services financiers pour récompenser surtout soutenir les commerçants qui sont dans le secteur informel. C'est vraiment ces trois lauréats qui seront invités en décembre prochainement, donc en marge du sommet Afrique, les leaders africains en décembre, pour le sommet donc du président Biden.
Ici aux États-Unis.
Ici aux États-Unis, à Washington.
À Washington. Et que vont bénéficier ces trois lauréats?
Alors, ces lauréats seront agréablement surpris, comme je l'avais dit la dernière fois. Ils auront donc une composante monétaire, une composante non monétaire. La composante monétaire est composée essentiellement de 10 000, en fait, en partenariat avec notre partenaire USADF, on a décidé donc de leur accorder un grant donc de 10 000 pour tous les 10 finalistes. Et en plus de ça, nous avons...
Ce sont des dons
qu'on va mettre à leur disposition pour permettre à leurs entreprises de mieux avancer, de grandir. Et en plus de ça, nous avons aussi prévu les cinq champions, $5,000 supplémentaires. Et après, le troisième gagnant donc aura $15,000 supplémentaires. Le deuxième, celui qui sera donc deuxième, aura $20,000. Et le grand champion donc aura $25,000 supplémentaires. Ça, c'est la composante monétaire. La composante non monétaire, c'est essentiellement donc en partenariat avec Microsoft, nous allons avoir des soutiens technologiques qui vont jusqu'à une valeur de $150,000 par lauréat.
Ces idées vont donc devenir des entreprises. Vous venez de parler de ces dons qui vont recevoir en vue peut-être de la mise en œuvre et de leur projet. Et que sera le suivi en vue de leur essor?
Voilà, il faut noter que ce sont des start-up qui sont présentement fonctionnelles, qui sont en fonction actuellement. Et donc, ils ont fait ces innovations, ils ont besoin de pouce, et donc ces dons pourront leur permettre de mieux grandir leur start-up et puis donc de pouvoir soutenir, avoir encore plus d'impact. Et en termes de suivi, il faut dire que nous avons des partenaires locaux et ces partenaires locaux vont travailler avec ces différents lauréats et ces différents lauréats pourront bénéficier, comme j'ai dit, du soutien technologique de partenaires comme Microsoft, partenaires comme AWS, Amazon. Vous avez aussi Sabastion, Standard Bank, Trimble, Vista Bank et bien d'autres qui ont décidé de soutenir ces différents startups.
Un millier de candidats pour ce premier concours, 3 projets seulement retenus, des dizaines qui vont être appuyés. Est-ce que le reste, c'est jeté à la poubelle?
Non, c'est pas jeté à la poubelle. Rappelez que c'est une toute première édition qui a permis donc d'avoir les 1706 candidats, pour être précis, de 50 pays. Nous pensons qu'ils auront l'opportunité l'année prochaine d'essayer encore. Nous avons aussi nos partenaires qui sont très intéressés à voir ces différentes innovations. Donc, ils pourront essentiellement bénéficier d'autres supports.
Et vous êtes représenté dans plusieurs pays en Afrique?
Oui, bien sûr. Nous sommes représentés dans pratiquement 26 pays au niveau de l'Afrique, notamment dans ces 3 pays, justement.
Merci à Guevara Yao du Centre américain-africain des affaires. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Georges et Léonard Sagnot a assuré la mise en onde. Eric Manilakidza a été à la présentation. À la prochaine.